Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On arpente les salles d'un musée, on tombe sur un tableau que l'on croit connaître par cœur. Et l'on découvre des détails nouveaux, en tout cas nouveaux pour nous. Notre cerveau est pourtant le même que 6 mois plus tôt, lorsque, par exemple, on avait déjà passé 10 minutes à contempler une toile de Matisse au centre Pompidou. Notre cerveau, oui. Mais notre vue. À juste titre, Bertrand Jérôme proposait, régulièrement dans les Décraqués, une sorte de mise au point, strabisme léger et divergent, ou un regard tordu sur la peinture. Après écoute de ce qui suit, un certain Bocal et son occupant ne vous paraîtront plus jamais comme avant. Première diffusion sur France Culture, le 17 avril 1996.
Strabisme léger et divergent ou un regard tordu sur la peinture. Souvent, les choses ne sont pas tout à fait comme on le prétend. Il est bon de savoir regarder un peu de travers, à l'envers, sous d'autres angles. Quand on vous dit « mettez-vous là et regardez ce tableau », méfiez-vous. Déplacez-vous immédiatement ou au moins penchez la tête. Vous pourrez voir les choses autrement. Et si on vous dit en plus ce que veut dire ce que vous regardez, alors bouchez-vous les oreilles, il y a danger. Toutes les interprétations d'un tableau sont possibles, c'est la vôtre qui doit d'abord compter. C'est très simple, il suffit de regarder et de se laisser aller. Patrice Delbourg, quel tableau nous avez-vous apporté ?
J'ai apporté sur mon dos une huile sur toile de 1m47 sur 1m97 de Henri Matisse, peintre français. Qui s'appelle le bocal au poisson rouge, dans la série des intérieurs.
Bien sûr, oui.
Qui représente, sur une petite table, un bocal d'eau bleue, qui est posé devant une fenêtre, avec, au loin, il y a un fragment de paysage parisien, comme ça, qu'on peut apercevoir.
Qu'on voit à travers la fenêtre.
Le chambranle, oui. Et puis, alors, des poissons rouges qui sont suspendus, là, dans leur mouvement, et qui flottent au centre de la composition. Et puis autour, bien entendu, les aplats, les lignes de fuite, des objets, des meubles déformés, au premier plan, un fauteuil abandonné.
Il y a une petite toile de Miro aussi posée contre le...
Oui, et puis ici également une petite piste de dés apéritive où un 421 vient de se terminer.
Ah, en effet, oui. Enfin, bon, tapis vert, oui. Très intéressant. Patrick Beignet, ce Matisse que nous a apporté Patrice Delbourg, et vous intéresse, qu'est-ce que vous savez sur ce tableau ?
Je le trouve très très laid.
Oui. Ah, c'est pour ça.
Ça
que vous contempliez avec attention, oui.
Je l'ai pris un peu comme on prend les devinettes, vous savez, deviner où est caché le chasseur, je ne sais quoi. Alors je me suis d'abord demandé si le premier titre de ce tableau n'était pas « Course d'escargot dans l'après-midi ».
Oui.
On voit en effet au centre droit de la toile deux mollusques en train de progresser parallèlement sur une piste de couleur bleue. À moins qu'ils ne soient en train de copuler, mais enfin on ne sait jamais avec ces bêtes-là. De toute manière, ils sont loin. Non, ils sont bien visibles.
Ah
là,
oui, c'est hein. Ceux-là. Ah oui, oui, non, moi je pensais que vous pensiez. Non, pas les autres.
C'est des moustiques là-bas.
Oui.
Non, donc. De toute façon, ils sont assez mal peints, c'est difficile de trancher. Il est en outre difficile d'écarter totalement l'idée que l'escargot du dessous soit un singe replié sur lui-même. Là, je trouve ça assez parlant. Quelqu'un, nous aurions là probablement une illustration pour la fable de Florian, le singe, l'escargot et les poissons rouges. Je crois qu'il faut rappeler qu'au début de notre siècle, les fables de Florian, et spécialement celle-là, le singe, escargot et poisson rouge, étaient encore immensément célèbres, et qu'on les apprenait par cœur dans toutes les écoles de France. Et on peut supposer que Matisse a récité cette fable dans son jeune âge. Florian, j'y insiste, était à l'époque pratiquement aussi célèbre que La Fontaine. On a beaucoup de mal à le croire aujourd'hui, où il est tombé totalement désuétude. Il est donc probable que nous avons là le début d'un cycle d'illustrations pour les fables de Florian que Matisse aurait entrepris en 1914, c'est la date du tableau, et on comprend facilement ce que signifie la date de 1914, c'est-à-dire que la guerre a dû interrompre l'entreprise et que Matisse, par la suite, n'a jamais trouvé le goût, l'énergie de s'y remettre, peut-être parce que la figure même de Florian était tombée à l'époque en désaffection. Et cela, bien qu'il ait par la suite illustré beaucoup de livres. Nous n'aurons donc jamais les fables de Florian illustrées par Matisse, mais je crois qu'on peut s'en consoler facilement.
Bon, enfin, c'est votre point de vue, non, vous nous faites cette... Bon, d'accord, Patrice Delbourg, qu'est-ce que vous...
Ah, il est pas indulgent pour ce grand peintre.
Non, il est dur, mais oui, carrément, oui. Enfin...
C'est comme il le sent, après tout.
Oui.
Moi, je trouve que Matisse est un bon peintre, j'aime beaucoup.
Mais les bons peintres ont aussi de mauvais tableaux.
Ah, mais c'est un de ses plus jolis, avec la blouse roumaine et puis l'intérieur aux aubergines. Moi, j'aime beaucoup, enfin... Alors là, c'est un ring, quoi. Où là, ils les ont laissés s'entre-déchirer toute la soirée, puis l'affrontement a cessé, faute de public. La fatigue a eu raison des derniers badauds, et les parieurs, les propriétaires, les bookmakers, tout le monde a été se coucher. Le combat ne reprendra qu'aux premières lueurs du jour. Il n'y a pas eu de net avantage durant les deux premières heures du Rix. Quelques jolis miasmes en uppercute ont été décochés, une jolie série de microbes à la face, mais pour le reste, chacun est resté sur sa faim. Les grandes décisions seront pour demain. La salle de combat désertée est maintenant plongée dans une demi-obscurité. Le fauteuil de l'arbitre au premier plan est vide. Ça sent l'embrocation, l'huile de ricin, la graisse fondue et la flanelle trempée. Les murs s'écaillent, l'ennui fait les grumeaux. Au premier plan, une piste de dés, abandonnée à la feutrine maculée, laisse deviner un foule des as par les rois, vite escamotés. Des mendiants aveugles agitent leurs sébilles hors champ. Les esprits se sont apaisés, hors champ aussi. Le rhum et la couleur peuvent tout, la fenêtre le prouve. Il y a un bleu intense qui envahit l'arène. Le ciel de lit est un petit peu cyanosé. Et par le chambranle, on aperçoit un fragment de paysage en bascule où on pourrait reconnaître la conciergerie, la samaritaine ou le quai aux fleurs. Mais la scène ne coule pas dans le bon sens. En fait, il pourrait plutôt s'agir de la poudrière de Fort-de-France, avec le marché poisson au bord du canal Levasseur, des carrioles brinque-balles sur un chemin malaisé. Un léger moucharabier, ce que vous preniez pour une course de mollusques, c'est ajoute à la magie de l'instant. Et d'ailleurs, comme beaucoup de moucharabiers, ces motifs dessinent deux paires de couilles, tête bêche, ce que font souvent les moucharabiers. Une plante en peau fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce, et les rameaux dessinent comme une tonnelle, comme ça, sur le chemin de Halage. Délaissé par ses supporters, donc on en revient à ce qui se passe au milieu du ring, délaissé par ses supporters, chaque muqueuse s'observe maintenant dans un coin du pit, tel des coqs aux ergots d'acier, tel la mangouste et le serpent sur la dune. Car il s'agit bien d'un combat d'amygdale, infecté, auquel chacun est convié ce soir. L'une des amygdales est infectée d'origine érythémateuse, là, et l'autre d'origine diphtérique. C'est une joute historique, une belle affiche au fond du palais. Deux amygdales particulièrement virulentes, suspendues dans un liquide amniotique, un pancrace d'angine de Vincent, un ring viral. Sous les cintres buccopharyngés, tout paraît ployé dans un équilibre fragile. En marge de cette paire de lymphoïdes purulentes, la table, le fauteuil, la moquette sont déformés par une exagération de lignes de fuite. Ça c'est Matisse. Hein. À l'arrière-plan, ici, un divan lacanien aux gencives de velours fané est encore défoncé par le corps avachi du précédent patient, un propriétaire de Ganglion, sans doute, en pleine évocation de scènes primitives. L'oreiller est intact. Les mises des parieurs sont restées sous la console. À la demande des autorités, une angiographie sur chacune des deux éponges combattantes a été pratiquée. Aucune des amygdales n'était dopée, ce qui rassure sur la moralité des voûtes palatines sous les tropiques.
Ce sont des amygdales, oui, qui sont...
Oui, des amygdales, c'est pas des végétations.
Non, bien sûr, faut pas confondre.
C'était des rats.
Non,
c'est des amygdales.
Là, on peut voir les choses comme ça.
Oui, on a vu.
La forme, oui.
C'était Les Décraqués, strabisme léger et divergent, ou Un regard tordu sur la peinture, par Bertrand Jérôme, avec Patrice Delbourg, qui avait choisi le bocal au poisson rouge de Matisse, au Centre Pompidou, et Patrice Beignet. Première diffusion sur France Culture, le 17 avril 1996. Vous pourrez réécouter ces Décraqués en ligne, ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Thank you.